Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans un cinquième épisode d'A priori sur les ondes de Chiz 94.3. Nous sommes vos animatrices, Caroline
et Lorena. Et aujourd'hui, nous recevons Alexis Simard pour nous parler d'un sujet qui le passionne, l'univers des montres. Donc, pour commencer, Alexis, voudrais-tu nous parler un peu de toi, de ton parcours scolaire, de tes implications au sein du BIAPRI?
Merci beaucoup de m'avoir invité. Moi, c'est Alexis Simard. Parcours scolaire, moi, je suis originaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean, de la ville d'Alma. Fait que j'ai passé comme toute ma vie là, jusqu'à temps que j'arrive en secondaire 5. J'ai déménagé à Montréal. J'ai fait mon secondaire 5 à Montréal. Après ça, j'ai fait 2 ans de cégep là-bas aussi, au collège Hunsic. Pour ça, je suis revenu à Alma comme pour finir mon cégep. Puis là, maintenant, je suis rendu ici. Au BIAPRI, en fait. Fait que c'est pour ça. Puis, à part les montres, j'étais intéressé par beaucoup d'autres affaires. J'ai fait beaucoup de sport dans ma vie. C'est pour ça que j'ai déménagé à Montréal, en fait. C'était pour jouer au baseball. J'intéresse beaucoup par la politique aussi. En fait, c'est pour ça que j'ai rejoint le BIAPRI. Puis, je suis. En fait, c'est pas mal ça.
Puis, juste une petite question. Qu'est-ce qui t'a fait vraiment choisir le BIAPRI? Tu viens quand même. T'étais à Montréal avant?
En fait, je voulais y aller en Sciences Po. Okay. En fait, je voulais aller en psycho quand je suis rentré au cégep. Okay. Puis là, j'ai eu un cours de psychologie, puis j'ai fait « OK, ouais, je veux vraiment pas faire ça ». Fait que là, j'avais un cours de sciences politiques qui était comme intro à sciences politiques, puis j'étais comme « c'est vraiment intéressant ». Fait que j'ai switché comme de parcours dans les sciences humaines. Mm-hmm. J'étais comme dans un parcours plus psycho, puis là, j'ai switché pour un parcours plus sciences politiques. Fait que, puis là, après ça, c'est une de mes amies qui m'a parlé du BIAPRI, qui a dit genre, ben, si jamais ça t'intéresse, genre, d'autres sphères. En fait, je savais pas vraiment que le BIAPRI avait d'autres sphères que la Sciences Po. Mm-hmm. Je pensais que c'était juste Sciences Po plus relations internationales, parce que c'était plus ça qui m'intéressait. Mm-hmm. Puis c'est quand je suis comme, fait mes inscriptions au cours, j'ai réalisé que j'avais des cours d'économie, des cours de droit, mais ça m'intéressait quand même. Mm-hmm. Donc, c'était plus pour ça, parce que, je sais pas si vraiment la diplomatie, c'est un emploi que je veux faire. Mm-hmm. Ça m'intéresse beaucoup, mais comme moi, j'aime beaucoup j'aimerais beaucoup ça enseigner. Okay. Donc, je trouvais qu'avec le BIAPRI, genre, être capable de voir plusieurs matières. Puis, parce que je trouvais vraiment souvent les enseignants du cégep à l'université, ils ont comme une connaissance, genre, sur
vraiment
tout, on dirait, large.
Truc, ouais.
Puis, tu sais, je suis une personne beaucoup très généraliste. Mm-hmm. Donc, je trouvais que le BIAPRI, pour moi, c'était de droit dans le mille dans les affaires qui m'intéressaient. Donc, c'est pour ça.
Merci beaucoup. Ben oui. Puis sinon, ben pour rentrer directement dans le vif du sujet, pourquoi tu as choisi le sujet des montres aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'intéresse là-dedans?
Moi, ça m'intéressait beaucoup de faire le podcast. Puis là, j'avais pas vraiment d'affaires que je pouvais parler. Puis là, j'en parlais avec mes amis. J'étais comme, ça m'intéresserait fou de faire un podcast, mais j'ai pas de. Puis à un moment donné, j'ai fait, tu sais, moi, j'ai une super de grosse passion sur les montres. Fait que j'étais comme, en plus, il y a des affaires économiques dans les montres qui fit un peu avec le BIAPRI. Fait que j'étais comme, ça serait une super bonne idée de parler de ça. Puis mon intérêt des montres, c'est vraiment spécial. En fait, mon père, il est comme super passionné par les montres. Pendant toute ma vie, il m'en a parlé. Puis moi, j'avais aucun intérêt sur les montres, genre avant peut-être là, 3 ans. Là. Mais comme quand j'étais jeune, je m'en foutais un peu des montres. Ça m'intéressait pas vraiment. Puis là, moi, j'avais une Apple Watch. Puis mon père, un des Noëls, il m'avait acheté comme un bracelet style montre, genre en métal. Là, j'avais mis ça sur ma Apple Watch, puis j'étais comme, je trouvais ça tellement beau, là. Là, je le mettais partout. Avant, je n'en mettais même plus ma Apple Watch, puis j'ai commencé à le remettre à cause de ce bracelet-là. Puis là, je suis comme décidé à m'amener un soir d'écouter genre une vidéo YouTube genre sur les montres. Puis là, après ça, je suis tombé dans un cercle vicieux de vidéos sur les montres. Puis ça, j'ai commencé à lire des articles, des affaires de même. Puis qu'est-ce qui est vraiment nice, c'est que ça m'a refait comme... ça m'a comme fait une autre affaire que j'avais en commun avec mon père. Fait que là, tu sais, on a rendu qu'on parle de ça aussi, qui est genre, super intéressant. Fait que genre, je trouvais que c'était comme une façon de reconnecter aussi avec lui. Mm-hmm. Fait que ça vient de là un peu, là, que je réalise de quand je vieillis, j'ai beaucoup plus de ressemblance à lui que quand j'étais jeune. Là, ouais.
Ouais.
Fait que c'est un peu pour ça. C'est un peu ça que ça vient mon intérêt. Là.
Ah, mais c'est vraiment intéressant. Puis sinon, ben, peut-être pour nous mettre en contexte nos auditeurs. Vraiment pour commencer, à quel moment les toutes premières montres sont apparues puis à qui on doit leur invention en fait?
Avant les montres qu'on portait sur le poignet, il y avait genre les montres de poche.
Mm-hmm.
Parce que tu sais, dans le temps, il n'y avait pas vraiment de façon de vraiment savoir il était quelle heure. Fait que tu sais, il y avait des affaires comme genre des chandelles qui brûlaient un certain temps, puis t'avais comme le soleil qui frappait le sol d'une certaine façon. Fait que là, il y avait comme des montres de poche qui ont été inventées comme vraiment longtemps, les années 1500. Dans les 1600. genre, les premières montres, genre, bracelets, c'était vraiment les années plus 1800, où qu'il y avait, où c'était vraiment plus pour les femmes, en fait. Mm-hmm. C'était comme une autre... un autre genre bijou pour eux. C'était juste un bracelet, puis il y avait une petite genre montre qui avait juste l'heure, qui avait pas les minutes. Mm-hmm. Ça disait le temps, mais c'était vraiment plus une affaire de style. Puis c'était fait par une compagnie qui existe encore aujourd'hui, c'est la compagnie Breguet. En mm-hmm. fait, c'était le fondateur de cette compagnie-là, c'était comme le premier à faire des montres vraiment style sur le poignet. Mm-hmm. Donc ça vient vraiment de là. Puis ensuite de ça, les montres genre plus pour hommes, ça vient... En fait, c'est une histoire quand même cool. C'était un pilote... que lui, en fait, les montres, ben, genre, arrive plus tard, mais comme c'est un pilote qu'il voulait pas enlever sa main du volant, ben, genre,
pour checker sa montre.
Pour checker l'heure. Okay, parce
un pilote
que, tu sais,
de course automobile,
ouais. Non, un pilote d'avion, en fait.
Un pilote d'avion, okay.
Parce que, tu sais, eux autres, il y avait un certain temps qu'ils pouvaient voler à cause de leur, ouais. À cause du gaz, puis tout ça. Fait que, fait qu'il check tout le temps le temps. Mm-hmm. Puis lui, il était comme, il trouvait ça gossant qu'il fallait tout le temps qu'il check dans sa poche. Mm-hmm. Fait que là, il a demandé à son ami, qui était comme un bijoutier, de faire une montre style sur le bracelet, fait qu'il n'avait pas besoin d'enlever ses mains du volant. Mm-hmm. Fait que c'était comme la compagnie Cartier, qui existe encore aujourd'hui, mm-hmm. qui prend plusieurs connexes, genre pour les bijoux, les lunettes.
Oui, oui.
Mais eux autres, ils font des montres aussi, puis c'est eux autres qui ont fait les premières montres pour hommes. Mm-hmm. Ça part de là, en fait. C'était pour des montres pour des pilotes, en fait, pour qu'ils voient l'heure, puis le temps.
Puis, en fait, quel chemin a été parcouru, en fait, depuis l'invention des toutes premières montres pour qu'on puisse en arriver au modèle plus récent? Tu en as parlé un peu tantôt qu'avant, il y avait les montres de poche, puis après, c'est les montres bracelets, mais comment est-ce qu'on voit cette évolution-là avec les modèles plus actuels?
Actuels, oui. Ben, qu'est-ce qui est cool, c'est qu'avant, les montres, c'était vraiment un outil de travail. Mm-hmm. Fait que tu avais des montres qui étaient faites spécifiquement pour des plongeurs, comme ça, voir les montres avec les petites affaires qui tournent, là. C'était fait pour les plongeurs pour voir le temps qui leur restait dans leur oxygène.
Mm-hmm. Okay,
fait que c'était vraiment des montres. La même chose que je dis pour les pilotes, c'était pour voir le temps. T'avais des ceux-là qui étaient faits pour chronométrer aussi.
Oui.
C'était mm-hmm. vraiment des outils, en fait. C'était vraiment ça le but, c'était que ça dure longtemps puis que ça soit des outils de travail. T'sais, maintenant, avec le téléphone puis avec toutes les autres affaires, ça devient que les montres sont moins importantes. Mais il y a quand même cette ancienneté-là qui vient des montres, que tu vas acheter une montre comme un diver's watch, qui serait mm-hmm. une montre pour la plongée, qui existe encore aujourd'hui, même si c'est comme les plongeurs, ils portent plus vraiment ça. Ils vont mm-hmm. porter des montres plus comme style Garmin, des affaires comme ça. Fait qu'il y a comme une évolution que les montres sont plus devenues des outils, mais plus des choses
des accessoires, en fait.
Oui. Plus devenus des bijoux.
Mm-hmm.
Qu'avant, c'était comme... Tu sais, t'avais des montres genre de soirée, qu'on dirait, comme des montres mm-hmm. plus comme quand des grosses tenues. Que c'était des montres beaucoup plus slim, beaucoup moins grosses sur le poignet. Mais là, maintenant, c'est rendu que toutes les montres, là, tu peux les mettre dans des soirées comme ça parce que c'est plus rendu un accessoire qu'un outil de travail. Fait que c'était vraiment ça qui a eu l'évolution, c'est que maintenant les montres sont moins utilisées pour être des outils de travail. Moi, si je m'en vais plonger, je mettrais pas une montre à 20 000 $ là, personnellement.
Voilà.
Fait que avant de devenir des outils, genre, c'est allé de outils à accessoires comme dans les années, je dirais 80-90, là, que c'est devenu beaucoup plus des affaires plus accessoires, des affaires plus dispendieuses aussi.
Puis dans l'aspect physique, ben des montres, tu le dis qu'avant, qui étaient comme plus lourdes, puis là, sont comme devenues plus légères, plus slim.
Ben, pas nécessairement, c'est juste sont devenues comme plus, je dirais, raffinées.
OK.
Genre, tu sais, comme là, t'es rendu avec des montres avec, tu sais, des diamants dedans, des montres faites en platine.
Mm-hmm.
Qu'avant, tu sais, t'avais des montres, c'était pas mal juste en acier inoxydable. Puis sinon, t'avais des montres en or, que c'était plus, comme j'ai dit, des montres haut de gamme.
Mm-hmm.
Là, maintenant, tu vois, des montres sont faites avec plein d'affaires. Il y a des montres qui sont faites avec des morceaux de météorites, genre.
Okay. Oh,
c'est vraiment intéressant. Les autres sont extrêmement mm-hmm. chers, là, mais c'est fait avec des morceaux de météorites qui ont tombé sur la planète. Là. Fait, maintenant, c'est rendu, les montres sont vraiment plus un moi, j'achèterais pas une montre qui vaut cher pour faire une activité. Ça mm-hmm. va plus être comme quelque chose d'accessoire.
L'exhiber, en fait.
Oui, exactement. Mm-hmm. Si je m'en vais pour faire comme de la plongée ou quelque chose de même, ça va vraiment être plus une montre comme plus technologique là, que j'irais, là, comme style Garmin que j'ai dit tantôt. Là. Fait que c'est vraiment ça qui a c'est ça qui a vraiment différencié les mondes d'avant et les mondes d'aujourd'hui.
Puis un peu dans le même sens, là, je me demandais quand est-ce que la commercialisation des montres a commencé?
Ben, ça retourne à quand que les femmes portaient les montres comme style accessoire bijoux. C'est là que c'est devenu vraiment plus commercialisé. Puis je dirais une autre affaire qui a comme ajouté cette commercialisation-là, c'est vraiment arrivé au 20e siècle avec les films.
Mm-hmm.
Je dirais comme dans les films, c'était rendu que les montres, c'était comme rendu une pièce importante.
Okay.
Genre l'acteur du film populaire, il portait quelle montre.
Okay.
Tu vois surtout ça avec genre un série de films qui est super associé avec les montres, c'est les films James Bond. Genre là maintenant ils sont rendus tout le temps avec des montres Omega, mais avant comme ils portaient des Rolex, ils portaient des Seiko, tu sais, ça changeait de film en film.
Mm-hmm.
Fait que eux autres, c'est vraiment comme une série de films qui est vraiment associée avec les montres. Fait que ça a comme aidé beaucoup à la commercialisation, je dirais. Puis aussi, après ça, les réseaux sociaux. T'sais. Comme moi, j'ai trouvé ma passion à travers ces réseaux sociaux-là. Puis je trouve qu'il y a eu un gros boom en popularité des montres juste un peu avant la COVID. Puis je pense que ça vient 100% des réseaux sociaux aussi, que c'est devenu beaucoup plus populaire qu'avant. Parce qu'on a vu comme une montée en prix en raison de ça. Fait que je trouve que c'est vraiment comme un aspect... De réseaux sociaux, puis un aspect comme plus hollywoodien que les montres sont devenues plus populaires aussi.
Mm-hmm.
Okay.
C'est vraiment plus la visibilité, en fait.
Ouais, exactement.
Que je comprends.
Parce qu'avant, genre, tu voyais juste les montres sur comme la haute noblesse, là, mm-hmm. comme les femmes qui portaient les montres, c'était que vraiment plus des reines, des princesses. Maintenant, c'est devenu plus accessible d'une façon,
ouais.
Mais c'est aussi devenu plus visible aussi en mm-hmm. raison de l'accès qu'on a à comme l'Internet, des affaires comme ça.
Puis on le voit souvent, justement, en général, dans les publicités de montres, c'est beaucoup les personnes, justement, des célébrités, des personnes connues
ouais,
du public
exactement.
Qui vont faire la promotion des montres. Et peut-être que ça va peut-être plus attirer là, l'attention des téléspectateurs en général, puis ils vont dire « Ah, mais peut-être que cette montre-là, ça m'intéresserait. »
La possibilité aussi.
Exactement,
ouais.
C'est ça.
Ouais, mais tu le vois aussi comme, imagine juste pour des compagnies, mais comme des sports, là.
Oui.
Comme je sais que Tissot, c'est une compagnie, eux autres, qui commanditent la NBA. Donc, tu sais, ils ont tout le temps leur pancarte-là. T'as Hublot qui commandite la Première Ligue, si je me trompe pas, dans le soccer.
T'as Casio aussi,
Ouais, mais Casio, je sais pas c'est qui commandite eux autres.
C'est une bonne question.
Ouais, on verra après. Mais c'est ça. Fait que là, tu les vois comme un peu partout. Puis, ah ouais, t'as Rolex pour le tennis. Souvent,
ouais,
tu le
oui,
vois.
Oui, aussi.
Comme eux autres, tu sais, genre le temps. Puis après, c'est écrit Rolex à côté. Donc, tu le vois qu'ils sont comme devenus plus commerciales. Même c'est vu comme quelque chose de prestigieux. Puis comme offre, tu vois, quand même, ça vaut quand même très cher des montres pareilles. Mais tu le vois qu'ils commanditent quand même des affaires qui monsieur, madame, tout le monde peut regarder. Là.
Exactement, ouais, c'est ça. C'est devenu un peu plus accessible.
Ouais, c'est plus rendu
même
caché.
Si le prix est encore assez élevé, là, on se cachera pas, mais oui.
Ça tourne autour de petites questions comme ça. Combien, mettons les gammes de montres, les prix, ça ressemble à quoi?
OK, ouais, je peux aller là-dedans parce que c'est très compliqué.
Ouais.
Quand tu rentres, genre, entrée de gamme pour des montres mécaniques, fait que des montres qui sont pas faites à partir d'une batterie ou qui sont pas faites à partir de quartz, fait que des montres que c'est juste des engrenages qui fait que ça tourne.
Mm-hmm.
Fait qu'il y a aucune affaire technologique là-dedans. C'est ça qui est super intéressant par les montres. Comme la montre que moi, je porte aujourd'hui, c'est ça. Il y a pas de batterie, il y a rien dedans.
C'est
juste des engrenages qui tournent, qui fait tourner la montre. Fait que c'est super intéressant. Des montres comme entrée de gamme, comme ça, si tu vas dans comme Seiko, ça va être dans du 300-400 $. Après ça, si tu veux aller plus dans des montres suisses, ça va être dans le 700-800 $ dans de l'entrée de gamme. Puis après ça, plus haut de gamme, tu vas rentrer comme de 5 000 et plus. Moi, je considère ça plus haut de gamme. Mais tu sais, t'as des compagnies de montres qui font des montres comme qui sont minimum genre 100 000 $. Là. Fait que c'est ultra choquant là, que c'est comme, tu sais, c'est qui va acheter ça? Là?
Non, c'est ça.
Parce que moi, je connais personne dans mon entourage qui a dit, ah ouais, je vais acheter une Richard Mille à 350 000, tu sais.
Ouais, non, c'est
le prix d'une maison. Fait que c'est super, c'est vraiment choquant de voir qu'il y a un monde qui a accès à ça.
Tantôt, tu as parlé de montres suisses. Moi, personnellement, je ne suis pas trop connaisseuse. Fait que, mettons que tu devais l'expliquer en quelques mots.
Ben en fait, c'est comme en Suisse que les montres sont comme... La majorité des montres sont construites, puis la majorité des compagnies de montres sont toutes basées pas mal en Suisse.
Mm-hmm.
Tu as quelques compagnies chinoises et japonaises. Tu as quelques compagnies allemandes. T'as quelques compagnies allemandes, mais comme je dirais, comme 95% des montres viennent de la Suisse.
Et pourquoi?
Ça, pour le reste, je ne sais vraiment pas. Mais c'est comme eux autres qui sont comme devenus les experts, les spécialistes. Là. Okay. C'est comme en fait les. C'est comme le fromage suisse ou comme les.
Le chocolat suisse. Un domaine d'expertise.
Ouais. Donc, c'est comme quand tu as un monde qu'il y a l'étampe, Swiss made, ça fait déjà que ça vaut plus cher.
Okay.
Comme imagine Hamilton. En fait, ça monte. Moi, je porte une montre Hamilton. C'était une compagnie américaine avant. Puis ils ont switché, sont allés en Suisse. Fait que là, ils ont pu avoir l'étampe Swiss Made qui fait comme. C'est plus haut de gamme parce que c'est fait en Suisse. Okay. C'est comme une affaire de prestige encore, là, vu que c'est comme eux autres qui ont comme été les plus avant-gardistes envers les montres. Là. C'est comme. Mm-hmm. Les compagnies viennent toutes pas mal de là.
Oui.
Et c'est ça, tu l'as un peu abordé. Il y a comme certains pays qui sont spécialistes, en fait, dans la production de montres. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de l'internationalisation des montres sur les marchés plus...
Je pourrais en parler. Ben en fait, c'est ça que je disais, comme la Suisse, c'est comme eux autres qui ont comme parti tout ça, pas mal, je dirais. Mm-hmm. C'est eux qui ont comme rendu ça pas populaire, mais c'est comme eux autres qui ont comme fait toutes les avancées technologiques dans les montres. Puis ensuite de ça, tu avais les compagnies allemandes comme Eylang & Son, eux autres qui ont commencé à faire des montres aussi. Eux autres, ça coûte vraiment cher, eux autres, leurs montres aussi, même si ça vient de l'Allemagne. Puis ensuite de ça, tu as comme plus les compagnies asiatiques qui sont arrivées comme dans les années 60-70. Mm-hmm. Qu'eux, ils faisaient des montres beaucoup plus accessibles, là, des montres à quartz, fait que des montres qui coûtent beaucoup moins cher à construire, fait que c'est des montres beaucoup moins chères pour le public. Donc, c'est comme là que ça vient, je pense, plus l'internationalisation, c'est que les montres sont devenues beaucoup plus accessibles à cause de eux, fait que c'était comme devenu plus une affaire internationale qu'une affaire plus de la bourgeoisie européenne, je dirais.
Ah, c'est vraiment intéressant.
Ouais. Puis sinon, un peu dans le même sens, là, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu là, des matériaux qui sont utilisés pour la confection des montres? Puis peut-être en quoi, justement, exemple, certains matériaux utilisés vont faire que le prix de la montre va être plus grand ou plus bas, peu importe?
Ouais, la majorité des montres sont faites comme les montres genre normales, là, sont faites en acier inoxydable,
oui.
Fait qu'en stainless. Fait que ces montres-là, c'est souvent tes montres les moins chères, là, vont arriver en acier comme ça. Après ça, quand tu vas aller avec plus. Des montres plus chères, tu vas avoir des montres en or. Fait que tu peux avoir des montres genre rose gold, yellow gold, puis white gold. Mm-hmm. Ce serait comme les trois types d'or que tu peux avoir dans les montres. Mais souvent, les montres sont pas faites en 100% en or. Là. Ils vont toujours avoir une certaine partie qui va être en acier. Parce que c'est juste, c'est moins cher à confectionner des affaires comme ça.
Mm-hmm.
Puis c'est plus populaire aussi avoir deux couleurs sur la montre que juste une. Ensuite de ça, tu vas avoir des montres en platine. Que ça, c'est vraiment beaucoup, encore plus cher, j'irais, les plus chers souvent ça. Puis comme j'expliquais tantôt, il y a des montres aussi qui sont faites avec des morceaux de météorites, mais ça va juste être le cercle dans le milieu avec les heures écrites dessus. Mm-hmm. Ça va juste être une plaquette, la plaquette qui va être découpée va être avec le météorite qui est descendu. Mais comme la montre au complet ne va pas être faite comme ça.
Là. Ouais, non.
Mais sinon, c'est pas mal ça, les matériaux qui sont utilisés. Il y en a probablement d'autres que moi, j'y connais moins, mais souvent, la base, c'est vraiment ces matériaux-là. Puis comme j'ai dit, le plus que le matériau va être cher, le plus que la montre va être chère.
Oui. Ça, c'est les matériaux, en fait, à l'extérieur de la montre?
À l'extérieur de la montre. Okay. Comme à l'intérieur, c'est comme de l'acier, des affaires comme ça, pour faire les engrenages, des affaires de même.
Fait que c'est plus... l'extérieur qui vaut cher que, mettons, tout
le temps, l'intérieur vaut cher aussi, dépendant du mouvement qu'on appelle. Fait que le mouvement d'une montre, c'est comme c'est tout le temps les affaires comme trademark d'une compagnie confectionner un mouvement. Fait que le mouvement, ça veut dire comment que la montre, elle tourne.
Okay.
Fait qu'imagine une montre que le mouvement est beaucoup plus précis ou qu'il y a des certains standards aussi. Fait que s'il est capable d'obtenir ces standards-là, ça va valoir plus cher. Fait qu'imagine, il y a certaines compagnies de montres qui font juste l'extérieur,
mm-hmm.
puis c'est une compagnie secondaire qui vont faire l'intérieur, fait que le mouvement. Fait qu'imagine pour Rolex, pendant un bout, eux autres, c'était pas eux autres qui faisaient le mouvement pour leur montre, pour spécifiquement leur Daytona. C'était une autre compagnie, Zenith. Mais là, maintenant, ils sont capables de faire leur propre mouvement. Mm-hmm. Là. Mais tu vois, il y a tout le temps un rattachement envers cette compagnie-là, comme genre, tu sais, on travaille ensemble longtemps.
Mm-hmm.
Fait que c'est super intéressant de voir comme est-ce que la compagnie a fait son propre mouvement, fait qu'un mouvement in-house, fait que c'est eux qui font leur propre mouvement, là, ça va avoir plus cher leur montre. Ou est-ce que c'est comme... Parce qu'en fait, les compagnies de montre, c'est souvent des conglomérats, genre. Okay. Souvent plus de les compagnies toutes ensemble. Fait que est-ce que c'est un mouvement du conglomérat? C'est comme, imagine, tu sais, comme Tissot et Hamilton sont ensemble. Est-ce que c'est un mouvement Tissot? Fait que là, maintenant, il adonne à Hamilton ou est-ce que Hamilton a fait son propre mouvement? Fait que c'est tout le temps ça aussi, voir si c'est plus cher aussi. Parce que le mouvement est extrêmement cher. C'est pour ça que des montres mécaniques sont plus chères que des montres en quartz, parce que c'est plus dur à faire.
Mm-hmm.
Mais tout le temps, à l'extérieur aussi, c'est les matériaux utilisés qui vont valoir plus cher.
Fait que plus le mouvement est précis, plus que ça augmente la valeur de la montre?
Oui, pas nécessairement, parce que tu vas avoir des mouvements qui sont pas tant précis, mm-hmm. mais la montre va valoir cher pareil.
Mm-hmm.
Mais c'est sûr que ça aide beaucoup aussi. Puis est-ce que le mouvement est durable? Est-ce que la montre est durable aussi? Quand tu vas rentrer dans du haut de gamme, comme des affaires comme Rolex puis tout ça, là, tu sais, des montres, ça dure des éternités.
Mm-hmm.
Là. C'est vraiment comme différent avec des autres affaires haut de gamme, je dirais. Ouais. Là, que, imagine genre des Ray-Ban, là, ça casse ouais. facilement.
Ouais.
Mais des montres, le plus que ça vaut cher, souvent le plus que ça va être durable aussi.
Okay.
Fait que c'est vraiment différent, je dirais, des affaires, des autres accessoires haut de gamme.
Mm. Ah oui, puis... Vers le début des années 70, le quartz va être introduit dans les montres. Puis grâce aux propriétés de ce cristal, en fait, la montre va devenir de plus en plus précise puis moins chère à produire. Quels effets sur le marché est-ce que tu dirais que cette introduction du quartz dans les montres a eu?
Ben, en fait, c'est super intéressant. C'est quelque chose qu'on appelle dans le monde des montres, c'est la crise du quartz. C'est dans les années 70, comme j'ai dit, début 69... les compagnies chinoises et japonaises, ils ont comme créé ce mouvement-là avec le quartz, que ça fait c'était super moins cher à faire, puis c'était super plus accessible. Ils pouvaient en faire, ils en produisaient beaucoup plus. Fait que ça fait que comme 60% des compagnies suisses qui faisaient juste des mouvements mécaniques ont comme effondré puis ont fait faillite.
Mmh.
Fait qu'il y a beaucoup de monde qui avait peur que juste le monde des montres mécaniques allait comme mmh. s'effondrer, puis ça allait juste tout devenir des montres de quartz. Mais là, après ça, on a eu comme... Il y a un créateur de montres qui s'appelle Gérald Genta,
mm-hmm.
qui est super reconnu parce qu'il a fait deux montres très populaires encore aujourd'hui, qui est la Royal Oak dans les Audemars Piguet, puis il a fait la Nautilus dans Patek Philippe. Ces deux montres-là sont sorties comme dans les années 70-80.
Mm-hmm.
C'est comme ça qu'il a remis en vie le monde des montres mécaniques.
Mm-hmm.
Parce que c'était plus devenu, comme j'ai dit, une affaire accessoire maintenant. Genre, t'achètes du haut de gamme parce que tu peux acheter une montre à 20$, puis elle va ouais. être plus précise qu'une Rolex à 20 000.
Mm-hmm.
Mais le Rolex à 20 000 a comme un plus un statut, tu sais. C'est plus quelque chose de haut de gamme. Fait que ouais. c'est comme ça qui a fait un gros changement dans le monde des montres à cause de cette... Puis aussi sur l'effet du marché à cause de cette crise de quartz-là, parce que il y a eu un changement qui s'est devenu plus des accessoires que des outils.
Mm-hmm.
Parce que les outils, c'était rendu que tu pouvais acheter une Casio à 20$, puis
ouais.
elle allait être genre... vraiment plus précise que n'importe quel autre montre mécanique à cause du quartz.
Les Casio, c'est des montres au quartz?
Ouais, c'est des ouais. montres à quartz ou des okay. montres à batterie.
Okay.
C'est un des deux.
Parfait.
Mm-hmm. Puis sinon, dans une optique plus économique, on va essayer de faire un petit lien avec nos disciplines, nos billets à prix.
Ouais.
Est-ce que tu pourrais nous parler du marché des montres?
Oui, le marché des montres, c'est vraiment intéressant parce que c'est un marché quand même... pas difficile, mais comme plus genre bourgeoise puis de noblesse.
Mm-hmm.
Fait que des montres extrêmement chères, de un, sont chères, puis de deux, sont difficiles à avoir accès. Donc, même si tu as beaucoup d'argent, c'est difficile de recevoir les montres. De un, parce qu'ils n'en produisent pas beaucoup dans une année. Puis de deux, la demande est tellement haute qu'ils ne sont pas capables de souvenir à l'offre. Ils sont pas capables de souvenir à la demande. Fait que ça crée tout le temps une pénurie dans les montres qui crée que le marché secondaire... ou le marché gris, ça fait que les montres, ils sont tout le temps plus chers sur le marché secondaire.
Okay.
Imagine, j'achète une montre super haut de gamme, super difficile à avoir, que ça m'a pris comme 3 ans à l'avoir, mais je peux la revendre la journée d'après puis me faire comme, tu sais, 20 000 $ de profit.
OK, wow, fait quand même.
Ouais, c'est vraiment spécial comme... c'est comme les Birkin bags là,
oui.
de Hermès, là, c'est la même affaire, en fait. C'est difficile à avoir ces montres-là, fait que tu peux recevoir cette montre-là, le revendre puis faire un profit dans une journée.
OK. Wow.
Fait que le marché des montres, c'est vraiment une question d'offre et demande. Il y a tout le temps une pénurie, il y a tout le temps pas assez de monde pour la demande, qui fait que le monde, souvent, vont aller sur un marché secondaire. Puis ce marché secondaire, ben, il est tout le temps plus cher. Là.
Ouais.
Donc, c'est vraiment intéressant, en fait.
Mais c'est en quelque sorte élitiste aussi, de ce que je peux comprendre.
Oui, c'est extrêmement élitiste parce que, imagine, t'es pas un collectionneur des montres, mais t'es comme un grand acteur.
Oui, c'est ça.
Mais comme, puis là, il y a une nouvelle montre qui sort, mais toi, tu vas tout de suite avoir accès parce que t'es une personne populaire. Puis la compagnie de montres veut que toi, tu portes sa montre-là parce que peut-être tu vas aller sur un red carpet ou peut-être tu vas aller
ouais.
sur un première de film.
Mm-hmm.
Puis là, tu vas porter sa montre-là, ça va créer de la demande, puis eux autres vont être capable de vendre plus de montre.
Ouais. Et donc, ce que je comprends, c'est que, mettons, monsieur, madame, tout le monde qui a les moyens, exemple, d'aller s'acheter une Rolex aujourd'hui, pourrais peut-être pas forcément se la procurer directement facilement.
Même si tu as les moyens.
Ils seront, ouais, ils seront pas capables, c'est, malheureusement.
C'est ça, comment ça fonctionne,
imagine, en fait. Imagine, tu vas aller à une boutique, comme imagine ici à Québec, tu as la maison Burks à Sainte-Foy, à Place Sainte-Foy, qui vend des Rolex. C'est des authorized dealers. Mm-hmm. Fait que, en fait, c'est quoi les authorized dealers? C'est la boutique, c'est eux, ils ont le droit de vendre Rolex, mais comme imagine, genre Walmart n'aurait pas le droit de vendre Rolex parce qu'ils n'ont pas l'accès à l'inventaire.
Okay.
Donc imagine, tu vas aller à la maison Burks, puis tu vas dire, imagine, bonjour, je m'appelle Caroline, moi je veux cette Rolex-là. Puis eux autres, eux, ils l'ont pas en stock. De un, c'est sûr qu'ils l'ont pas en stock. Puis de deux, ben ils vont te poser plein de questions. C'est quoi que tu fais dans la vie?
Okay.
C'est des entrevues, en fait, que tu fais. Puis il faut que tu te vends à la personne.
Comme une entrevue d'embauche, quasiment.
Montrer que tu es un client digne de posséder.
Puis si tu n'es pas nécessairement un client digne, mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire? C'est, bon, mais si tu achètes, genre, 20 000 $ de montres à notre boutique aujourd'hui, puis des montres que personne n'achète, là, c'est pour ça, là, ils veulent clairer leur inventaire. Mais nous autres, on va te mettre sur une liste d'attente. La liste d'attente peut-être est 2 ans, peut-être est 3 ans, peut-être est 5 ans, peut-être est 10 ans même. Quand on va t'appeler, ben là, tu auras accès à aller venir acheter la montre. Fait que c'est vraiment une affaire élitiste. Là. Fait que c'est pour ça qu'il y a un marché secondaire si fort dans les montres, parce que c'est tellement difficile de les avoir.
Ben oui, c'est ça, j'imagine, quand justement, de l'acheter neuve, tu sais, vraiment du. Mm-hmm. Fournisseur, je veux
dire, du fournisseur.
Ça doit être vraiment comme plus compliqué. Fait que sûrement que sur le marché secondaire, c'est plus facile de s'en procurer
une,
mais
accessible,
le prix doit être
beaucoup
plus élevé. Ouais, c'est ça que tu disais.
C'est vraiment cher là, sur le marché secondaire. Là. Mais là, on a vu une baisse un peu parce qu'il y a eu comme durant la COVID, il y a eu un boom dans les prix. Il y a eu comme une bulle, je dirais, comme une bulle de finances. Il y a eu la même affaire parce que le monde recevait, le monde travaillait pas.
Mm-hmm.
Le monde recevait de l'argent du gouvernement, comme c'est la PCU.
Mm-hmm.
Fait que là, il y a plein de monde qui achetait des montres, ça faisait monter le prix. Là, maintenant, les prix ont quand même descendu un peu sur le marché secondaire. C'est moins pire qu'avant. Mais comme, tu sais, dans les 2021, là, les prix des montres, c'était tellement haut sur le marché secondaire. T'avais des montres qui valaient peut-être 20 000 retail, fait que 20 000 à la boutique.
Mm-hmm.
Puis sur le marché, il allait pour 100 000.
C'est des grosses différences.
Là, ça a descendu un peu, c'est rendu moins pire qu'avant. Là. Mais tu sais, même à ça, moi, j'achèterais pas une montre à 50 000. Là, mais
c'est
rendu moins pire sur le marché secondaire qu'avant.
Mm-hmm. Ben oui. Alors, sur ça, on va prendre une courte pause. Alors, on est de retour sur A priori, sur les ondes de Chiz 94.3. Alors, pour continuer, est-ce que tu pourrais nous parler, là, Alexis, du contexte d'instabilité politique actuelle, notamment là, avec l'impact du prix des montres, essentiellement?
L'instabilité politique ou l'instabilité économique?
Économique, excuse-moi.
Mais comme j'ai dit, les montres ils montent de plus en plus de prix. Le retail. Fait quand tu les achètes en boutique, les montres ont toujours tendance à monter comme d'environ un certain pourcentage, pas très haut, là, mais comme dans 10 ans, ça va monter comme de 8%, 10% le prix des montres.
Mm-hmm.
Fait que, tu sais, c'est sûr que c'est rendu de plus en plus cher. Puis comme j'ai dit, c'est maintenant rendu plus vu comme une affaire d'investissement aussi à cause de ça. Fait que les personnes peuvent juste acheter des montres puis après ça le garder comme un investissement. Là. Mais on va revenir sur ça tantôt.
Ben oui.
Mais la raison que c'est rendu comme l'instabilité économique, c'est qu'aussi, c'est fait avec des métaux précieux souvent,
mm-hmm.
comme de l'or.
Mm-hmm.
De l'or, on va pas se cacher, il y en a pas beaucoup sur la Terre. Donc les montres qui sont faites en or, ils ont monté de prix énormément dans les récentes années. T'sais. Je parle de comme une montre qui était à 35 000 est rendue comme à 43 000 maintenant. Fait que ça monte de plus en plus. Fait que je pense que les montres, genre, avec les métaux précieux, vont vraiment monter en prix dans les prochaines années à cause de ça, à cause de la misère à avoir ces matériaux-là. Comme j'ai parlé tantôt avec la météorite, là, ces montres-là, c'est l'enfer comment c'est rendu cher.
Mm-hmm.
C'est rendu genre, au-dessus de 100 000 pour une montre en acier. Là. Fait que c'est comme des affaires que t'es comme... Je trouve ça choquant, là. Mais je pense que c'est vraiment plus ce côté-là que l'instabilité économique arrive. C'est à cause que les matériaux sont rendus plus chers. Ça fait que les montres vont valoir plus cher. Ça fait que c'est rendu moins accessible.
Ouais.
Fait que ça fait encore revenir à la pénurie qu'on parlait tantôt, que l'accès des montres est rendu beaucoup plus difficile maintenant.
Oui, c'est ça. Fait que c'est vraiment comme un contexte de rareté là, de ce qu'on comprend.
Oui, c'est tout le temps en fait un contexte de rareté, contexte de pénurie aussi. C'est tout le temps la demande va tout le temps être plus haute que l'offre. Fait que ça fait vraiment des... Comme on dit, ça fait que le marché secondaire est vraiment fort dans le côté des montres.
Mm-hmm. Puis dirais-tu que ce marché-là, il se auto-alimente? En fait, il auto-alimente cette pénurie-là?
Je dirais...
Tu dirais pas jusque-là?
En fait, je dirais que la personne qui alimente le plus la pénurie, c'est les boutiques.
Les boutiques,
c'est okay. À cause de eux, puis leur élitisme, mm-hmm. je dirais, qui alimentent l'instabilité économique. Puis c'est aussi eux qui alimentent leur plus gros compétiteur, qui est le marché gris.
Mm-hmm.
Genre, il y a eu pas une perte, mais il y a beaucoup de boutiques qui ont eu une baisse dans leurs profits en raison qu'ils étaient trop élitistes.
OK.
Ah, fait que ça a comme eu dans les années comme 2017, 2018, 2019, mm-hmm. un peu avant le gros boom, mm-hmm. il y avait un gros, gros, gros élitisme. Fait que là, ça faisait que le monde attendait trop longtemps pour les mondes. Ça a fait que beaucoup de monde a switché pour juste, garde, rendu là, je vais payer 5 000 de plus sur le marché gris, mais je vais l'avoir ma monde pour mm-hmm. plus longtemps, puis rendu ouais. là, ça va être mieux pour moi. Fait que c'est vraiment plus ça qui a fait le chiffre. Fait que là, maintenant, les boutiques sont rendues moins pires qu'avant.
Mm-hmm.
C'est comme
ça s'est ramené à l'équilibre un peu.
Ouais. Comment moi, je dealerais si j'étais avec une boutique? C'est, imagine, moi, je vais m'acheter genre ma grosse montre, ouais. là, t'sais, ma montre que moi, ça fait depuis que je suis jeune que je vais avoir. Ben, mm-hmm. je vais commencer à juste créer un rapport avec la boutique.
Okay. Ouais.
Comme je vais acheter cette montre-là, cette boutique-là, parce qu'elle m'intéresse aussi. Peut-être quelques années plus tard, je vais acheter une autre montre. Juste en créant des liens avec mm-hmm. la boutique, ça va donner que tu as plus de chances d'avoir la montre que tu veux. Mais même à ça, il y a quand même un élitiste qui arrive à ça parce qu'ils sont comme, imagine, tout le monde vient pour aller acheter comme c'était une Rolex Daytona,
mm-hmm.
mais là, eux autres, ils n'ont pas tout l'accès à eux, fait que là, ils créent des listes, puis ils créent des listes d'attente, puis ils font des entrevues, comme on a dit tantôt, que c'est genre, ah, ben, tu sais, cette personne-là, c'est un professeur à McGill, tu sais, fait que peut-être lui, on va y vendre une montre comparé okay, ouais. à Joe Construction, là, tu sais. C'est vraiment ça, là, c'est vraiment une question d'élitisme qu'on voit dans ce côté-là, puis comme tu as dit, je trouve que c'est vraiment les boutiques qui ont comme alimenter mm-hmm. le marché gris, puis ils ont alimenté l'instabilité puis le prix des montres. Là, c'était un peu à cause de leurs actions.
Leur comportement plus élitiste.
Ouais, mm-hmm. C'est vraiment pas des bons comportements en plus. Là.
Mm-hmm.
Tu vois des histoires souvent là, qui sont comme, bon, mais tu sais, ça fait 3 ans que je suis à la liste d'attente, mm-hmm. J'étais parti en voyage, là, ils m'ont ouais. appelé, puis j'avais 24 heures pour venir chercher la montre, sinon ils la vendaient à quelqu'un d'autre.
Ils ont vraiment une grosse liste avec ouais. beaucoup de gens.
Tu peux aller voir en ligne aussi les boutiques qui sont le mieux cotées pour ça, tu sais.
OK.
Comme, je sais que la maison Burke sont vraiment poches, là.
Ouais.
Genre, je suis allé voir en ligne, puis ils sont vraiment pas bons pour ça, là. Mm-hmm. Je sais qu'à Montréal, il y a Château d'Ivoire,
mm-hmm.
qui est une boutique de montres aussi, qu'eux sont moins pires un peu. Fait que, tu sais, s'il y a des riches qui m'écoutent en ce moment qui veulent acheter des montres, je dirais d'aller à Château d'Ivoire, là.
Riches ou bien pris.
Ouais, des riches ou bien pris, là. D'après, il doit y avoir une personne. Mais j'irais probablement plus vers Château d'Ivoire à Montréal. Mais sont moins pires que la Maison Burke, ce que je trouve qu'ils sont. Parce que même si tu vas à Maison Burke juste pour regarder les montres, là, ils te regardent tout le temps avec un side-eye.
Un petit dédain, genre.
Ouais, tu sais, comme moi, ouais. des fois, ça arrive que je vais juste aller, genre, regarder les montres, mm-hmm. là, puis ils te regardent parce que t'es tout seul en magasin, non, parce que personne d'autre va regarder les montres, ouais. parce que ça coûte trop cher. Fait que là, ils sont juste les deux à te regarder.
Mm-hmm.
Puis même, genre, quand. Comme cette montre-là, c'est mon père qui me l'a acheté. Même quand que lui est allé pour l'acheter, le service à la clientèle n'était pas bon.
Mmh.
Puis là, moi, quand je suis allé pour m'acheter des bracelets, parce que tu peux changer les bracelets,
mmh.
le service à la clientèle n'était pas bon non plus. Là. La personne voulait me vendre, genre, c'était à bracelet, comme 75$. Il voulait me vendre ça à 115$. Puis j'étais comme elle rendu là.
C'est comme s'il ne voulait pas te le vendre, en fait.
Ouais, c'est ça. Parce que j'avais pas mis ma veston-cravate. Je pense que j'avais veston-cravate. Et il me l'aurait vendu. Là. En ouais. jogging, c'est plus difficile. C'est plus difficile. Ouais.
C'est ça, tantôt, tu as mentionné beaucoup le marché gris. Pour nos auditeurs qui nous écoutent et qui sont pas très familiers avec ce ouais. type de marché, est-ce que tu pourrais comme simplifier le concept?
Ouais, je vais mettre ça plus simple. C'est t'as des vendeurs indépendants qu'on, mm-hmm. qu'on va appeler, que eux autres, qu'est-ce qu'ils font, c'est qu'ils achètent des montres, soit qu'ils achètent des boutiques, soit qu'ils achètent de deuxième main, là, de second hand, puis ils vont les revendre plus cher sur qu'est-ce qu'on appelle le marché secondaire ou qu'on appelle vraiment dans le monde des montres le marché gris.
Mm-hmm.
Que c'est pas le marché noir parce que c'est pas illégal.
Non, c'est ça.
Mais le monde, qu'est-ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont acheter une montre neuve, ils vont leur vendre plus cher. C'est comme un peu eux mêmes qui font leur argent, tu sais. Puis t'as beaucoup de les influenceurs souvent de montres, comme tu sais que tu vois sur TikTok, ça fait le même.
Ouais.
C'est des dealers marché gris, tu sais.
Okay, ouais.
Fait qu'ils vont aller à comme des encans, qui vont acheter des montres, vont faire des deals. Après ça, ils vont revendre des montres plus chères. Ils vont avoir des clients qui vont demander une certaine montre. Ils vont aller la trouver, ils vont la vendre à eux. Puis, tu sais, c'est moi, personnellement, ça m'intéresse moins le marché gris parce que qu'est-ce qui est vraiment le fun quand t'achètes une montre, c'est que tu reçois une petite carte avec ton nom dessus, avec ton numéro de client. C'est tout bien fait, mais comme imagine, t'achètes une montre sur le marché gris, mais ça va être le nom de quelqu'un d'autre sur la carte.
Sur Marketplace?
Ouais, c'est un Marketplace, en fait. Okay. C'est genre, souvent, ça se fait sur, ça s'appelle Chrono 24.
Il y a un site.
Sinon, tu peux aller sur les sites officiels de genre les vendeurs comme influenceurs. Ouais. Ils ont des sites officiels. Mais sinon, il y a le Chrono 24 que la majorité des montres sur le marché gris sont vendues là-dessus. Mais c'est ça, en fait, c'est les montres que le monde a la misère à avoir accès. Bien, tu peux les acheter là. Mais comme j'ai dit tantôt, ça va être beaucoup plus cher que si tu les achetais en boutique. Mais le problème, c'est que tu peux pas les acheter en boutique parce que là, c'est trop difficile à les recevoir. Donc, c'est un peu ça, le marché gris. C'est très intéressant à regarder puis à voir comme les prix monter puis descendre. C'est vraiment plus free-for-all, je dirais. Puis, comme qui décide les prix sur le marché gris, c'est vraiment, comme je disais tantôt, c'est la boutique, tu sais. Le plus que tu vas avoir accès à une montre, le moins qu'elle va valoir cher sur le marché gris, tu sais. Il y a des montres que, sur le marché gris, vaut presque la même affaire qu'en boutique. Mm-hmm. Puis, il y a des montres que, genre, tu sais, comme il y a une montre très populaire là, qui s'appelle la Nautilus Tiffany & Co. Mm-hmm. Je sais pas si vous connaissez la compagnie Tiffany & Co. Ouais. Mais ils ont fait un... eux autres, ils ont une longue tradition avec Patek Philippe, qui est une compagnie de montres.
Ouais.
Fait qu'ils ont comme fait un montre genre ensemble qui s'appelle la Nautilus Tiffany & Co. C'est une Nautilus normale, mais comme qui a juste la couleur genre turquoise. Là.
Oui, ben la couleur un peu du branding de Tiffany & Co.
Puis cette montre-là, tu sais, elle valait comme, je sais pas moi, 30 000, là, comme juste genre acheté en boutique, là. Puis comme elle se vend dans les enchères à comme 2 millions, là.
Oh my God,
parce que
wow.
Personne avait... Parce que je pense qu'ils en ont fait comme max une centaine, là.
Okay, fait que
personne n'avait accès à la montre, même si tu avais payé des millions, même si tu avais acheté genre des millions de dollars à Tiffany & Co, tu n'avais pas accès à la montre parce que c'était juste la haute, genre, je sais que Leonardo DiCaprio, il y en a une, les autres personnes, je pense pas que je connais quelqu'un d'autre qui en a une, mais genre, c'est des montres, tu veux dire, voir la montre, elle est vraiment belle, là, mais comme... Ça vaut pas 2 millions,
non, c'est
là.
Clair.
C'est une montre en acier, là. Ça vaut pas 2 millions. Mais c'est ça, c'est le marché secondaire. C'est l'offre et la demande, la rareté qui fait que les montres vaut tellement plus cher sur
qu'est-ce
ce marché.
Qu'est-ce qu'elles valent réellement.
Parce que c'est comme vraiment une question d'offre et demande. Ouais, exactement.
C'est ça, ouais.
C'est celle-là. Elle vaut tellement cher, là. C'est l'enfer.
Puis là, est-ce qu'on pourrait dire que les montres sont perçues en fait comme une espèce de moyen d'investissement par plusieurs?
Ouais, ben en fait, à cause du phénomène de rareté, il y a beaucoup de monde qui voit les montres comme une espèce de façon d'investir. Ils sont comme, ben, à la place d'investir dans la bourse, je vais investir dans une montre qui vaut super cher, puis je vais juste pas la mettre. Mm-hmm. Puis comme dans 50 ans, c'est sûr qu'elle va avoir plus cher. Mais c'est sûr que ça, c'est beaucoup plus risqué que juste investir à la bourse.
C'est un truc matériel que tu peux perdre, en fait.
Ouais, tu peux la perdre, mais tu peux avoir des assurances aussi sur les montres, là, mais les assurances coûtent cher.
Ouais.
Puis ça vaut pas la peine si t'es pas un dealer. Mm-hmm. Souvent, les vendeurs de montres, comme ils ont des assurances, mais comme c'est super compliqué. Mais pour ça, pour revenir sur l'investissement, c'est oui, c'est vu comme un moyen d'investissement par certains. Mais moi, je le considérais pas comme ça parce que c'est trop difficile à savoir c'est quoi les montres qui vont valoir cher dans 10 ans. Mm. C'est quoi les montres qui vont valoir cher dans 20 ans. C'est quoi les montres qui vont perdre la valeur. C'est sûr que en théorie, les montres vont toutes augmenter de valeur. Mais comme si tu avais juste mis cet argent-là dans la bourse, dans quelque chose qui est pas risqué, tu aurais probablement gagné plus d'argent. Mm. Parce que tu as beaucoup de monde que... Genre, il y a 10 ans, personne ne les voulait. Puis là, maintenant, ben tu sais, le Rolex, ils en font plus. Ou Patek Philippe, ils en font plus. Fait que là, maintenant, c'est un phénomène de rareté parce qu'ils sont revenus dans la popularité. Mais là, tu sais, ça, tu sais pas c'est quel monde qui va arriver. C'est comme jouer un peu à l'auto. Tu sais pas quel monde qui va valoir cher, quel monde va pas valoir cher. Oui, tu as certaines façons de le savoir parce que, imagine, c'est une édition limitée. Oui, c'est sûr que ça va valoir plus cher dans 10 ans. Là, mais comme, est-ce que tu vas avoir accès à cette édition limitée-là? Si tu as accès, genre... go for it, là, tu sais, ça va probablement valoir plus cher, mais comme, déjà, si t'as pas l'accès, ça vaut pas la peine de l'acheter sur le marché secondaire à plus cher pour en fait dire, ah, ben là, dans 10 ans, je vais leur vendre. Puis là, c'est rendu troisième personne qui leur vend, tu sais. Tu sais, les montres, tu veux pas... C'est comme une affaire un peu plus misogyne, là, mais ils sont comme genre, ah, je veux pas que ma montre soit genre passed around. Mais c'est une expression quand même utilisée souvent parce que, genre, tu sais, le monde veut quand même des... Tu sais, si quelqu'un a le choix d'acheter à marché gris ou acheter en boutique, c'est sûr qu'on va acheter en boutique. Là, comme juste tantôt, tu vas avoir ta propre petite carte, puis là, tu vas avoir la facture. Fait que, puis aussi, ouais, j'ai pas parlé de ça, mais comme ça rajoute de la valeur aussi, ça, sur le marché gris. Si t'as la boîte, si t'as les papiers, les box and papers.
Oui,
ouais,
en fait, un
ouais,
peu.
C'est ça, c'est les box and papers. Si t'as ces deux affaires-là, va avoir plus cher que si t'as pas... la boîte puis les papiers.
T'as juste
parce,
la montre.
T'as juste la montre parce que le monde sont comme, ben, c'est une vraie, c'est une fake. Tu sais. Fait que, ouais, fait que le moins d'investissement, moi, je suis pas nécessairement d'accord parce que je vois pas les montres. Tu sais, moi, c'est pas une affaire monétaire, les montres pour moi, c'est plus une passion.
Ouais.
Puis pour plusieurs, c'est ça aussi. Fait qu'ils le voient pas nécessairement qu'une affaire d'investissement. Mais pour beaucoup, sont. Tu sais, moi, j'ai dit bonne chance là, avec ça. À
essayer de gauger qu'est-ce qui va prendre la valeur puis qu'est-ce qui va prendre.
Ouais, c'est ça. Tu sais, comme, c'est un jeu. Là. Mm. Fait que, moi, nécessairement, je mettrais mon argent dans la bourse, là, à la place. Là. Je mettrais l'argent dans des rayés. Là. Je mettrais pas mon argent dans une montre que. On sait jamais. Là. Peut-être c'est dans 10 ans, le monde va juste porter des Garmin. Là, on ne sait pas. Là.
Mais c'est des sages conseils économiques.
Ouais, c'est ça. Pour tous les auditeurs qui vont acheter une
toutes
Rolex.
Les biapristes.
Ouais, toutes les biapristes qui vont acheter des Rolex dans pas long. Achetez une montre que vous trouvez belle. Là. Achetez pas une montre que vous voulez que ça vaille plus cher.
Puis pour ceux qui, justement, prennent la chance d'investir là, dans les montres, comment qu'on fait pour savoir qu'une certaine montre va avoir une meilleure valeur monétaire et par conséquent qui va représenter une opportunité d'investissement, en fait?
C'est sûr qu'il va y avoir certains modèles que c'est sûr qu'ils vont prendre de la valeur. Si tu regardes dans Rolex, genre leur modèle, leur Daytona, c'est leur modèle chronographe, là, c'est ceux-là pour mesurer le temps. Ces montres-là ont toujours valu cher, ont toujours été difficiles à avoir accès, fait qu'ils ont toujours pris de la valeur signifiante à travers les années. Fait que c'est sûr qu'une montre, si tu te regardes comme « OK, je vais investir dans une montre pour qu'elle vaut plus cher plus tard », regarde dans ces montres-là, dans une montre qui est dure à avoir accès, puis qui a toujours monté en valeur dans les années. Fait que t'as Rolex Daytona qui est super connu comme des moyens d'investissement. Les Royal Oak par Audemars Piguet aussi sont quand même vus comme des moyens d'investissement. En fait, tout qui vaut vraiment cher, là, en fait. Fait que t'as Patek Philippe aussi, là, les Nautilus aussi sont... Ben, en fait, les Nautilus, c'était tout qu'un affaire d'investissement parce qu'ils ont arrêté d'en faire.
OK, ouais.
Fait que genre, les Nautilus, les bleus... En fait, ils ont arrêté de faire les bleus, si je me trompe pas. Ça, ils ont arrêté de le faire en acier. Là, ils font juste en matériaux précieux.
Mm-hmm.
Fait que là, ceux-là en acier valent super plus cher maintenant parce qu'ils en font plus. Puis là, c'est rendu que genre... c'est ça, fait que c'est rendu que ces montres-là, ça vaut beaucoup plus cher à cause qu'ils en font plus, mais tu le sais pas quand la compagnie va arrêter d'en faire.
Ouais, non, c'est ça.
Puis ça va avec la popularité. Tu sais, il y a des montres... vous irez voir ça, les biapristes, mais la Rolex Eye of the Tiger, là, est vraiment pas belle. Là. Mais elle vaut vraiment cher parce que quand elle est sortie, elle était vraiment pas belle, puis personne voulait l'acheter, fait qu'ils ont arrêté de la faire, puis là, maintenant, elle est rendue populaire.
Ça veut pas dire, mettons qu'une montre est laid, mais même si elle est laid, vu qu'ils arrêtent d'en faire, les gens vont vouloir l'acheter.
Ouais, parce que là, c'est rendu un phénomène rare. C'est comme, OK, t'as une Eye of the Tiger parce que c'est rare, parce qu'il y a personne
qui l'a. Le phénomène est vraiment poussé à l'extrême, l'arrêter.
Parce que je l'ai devant moi, puis honnêtement, si je peux me permettre l'expression, ça fait un petit peu racaille.
Ouais, non, c'est vraiment bizarre comme montre, là.
Ça a l'air d'être une montre aussi très massive, mais...
Ouais.
Donc, qu'est-ce que je comprends, c'est que c'est pas forcément une montre qui est super belle, qu'on va l'acheter, mais des fois, c'est plus aussi la popularité, même si la montre, en fait...
C'est ça. Comme sa montre-là, quand elle est sortie, personne l'a achetée.
OK.
Fait que là, ils ont comme arrêté de la faire. Puis là, maintenant, elle est devenue populaire, genre, 5 ans plus tard, parce que là, le monde la veut, parce que là, c'est comme, c'est rendu plus, genre, niche, plus cool, maintenant, de porter une montre comme funky un peu, là.
OK, ouais.
Mais c'est comme, t'as pas de façon de savoir ça, tu sais.
Non, c'est difficile à prédire, là.
Ouais, parce que, imagine, je peux vous conseiller, puis dire, genre, ben, tu sais, achète les montres que personne n'achète parce qu'ils vont valoir plus cher plus tard, mais tu sais pas, là.
Ben non, c'est ça.
Tu sais, le monde, il achète peut-être pas ces montres-là parce que personne les veut pour de vrai, tu sais.
Ouais.
Fait comme cette montre-là, elle vaut vraiment cher, t'avais. L'autre montre aussi, c'était la nouvelle montre de James Bond qui est sortie il y a peut-être 2 ans.
Mm-hmm.
Ils l'ont fait, je pense qu'elle est faite en titane ou quelque chose de même.
Mm-hmm.
Fait que genre elle est faite dans un matériau qui est super léger. Fait qu'on dirait que tu portes rien, genre. Puis là, c'était comme une édition limitée aussi. Fait que là, maintenant, elle vaut extrêmement plus cher. Puis là, elle est difficile à avoir accès aussi. Mais comme j'ai dit, genre, les éditions limitées sont difficiles à avoir accès. Puis de deux, est-ce que cette édition limitée-là, elle va valoir la peine plus tard? Est-ce qu'elle va valoir plus cher? Parce que certaines compagnies comme Omega qui font les éditions limitées à toutes les années. Là, fait que c'est laquelle qui va valoir plus cher au final? On ne sait jamais. Tu peux tout le temps avoir comme une idée comme moi, cette montre-là, c'est sûr qu'elle va valoir cher dans 20 ans. Mais de un, il faut que tu aies accès à cette montre-là aussi. Donc, c'est difficile à savoir, mais si vous voulez vraiment investir dans les montres, il y a de l'étude à faire là, pour essayer de trouver les montres qui valent cher. Ouais. Bien connaître, puis aussi trouver accès là, à les montres. Je pense que c'est ça l'affaire la plus difficile, en fait. Savoir accès aux montres.
Puis, quels sont les grands joueurs dans le marché des montres?
Ben comme j'ai parlé beaucoup de Rolex, puis je pense que tout le monde connaît Rolex, mais en fait, Rolex sont très, très populaires. Puis c'est sans Rolex, on n'aurait pas le marché des montres qu'on a aujourd'hui. Mais tu as quelque chose qui s'appelle la Holy Trinity des montres.
Okay.
Puis ça, c'est Vacheron Constantin, c'est Audemars Piguet, puis c'est Patek Philippe. Okay. C'est comme les trois montres suisses qu'on appelle la Holy Trinity.
Les
parce
Big
que
Three.
C'est le Big Three, là. C'est eux autres. Là. C'est, fait que t'as ces trois-là, que c'est sûr que tu achètes une montre d'eux autres, ça va valoir plus cher plus tard parce que c'est, c'est la Holy Trinity. Après ça, t'aurais, comme dans les autres montres vraiment haut de gamme, t'aurais Richard Mille, que moi, personnellement, j'ai trouvé vraiment lettre, là.
Okay.
Genre, c'est comme des moi, je l'appelle les Bugatti de le monde des montres.
Okay, ouais,
tu vas avoir ta Mercedes, tu vas avoir ta Ferrari, ça, c'est tes Rolex, ça, c'est tes Audemars. Après ça, t'as des Bugatti qui vaut genre 1 ou 2 ou 3 millions. C'est la même chose avec Richard Mille. Il n'y a personne qui est dans leur territoire d'un prix. Genre, toutes les Richard Mille valent au-dessus de 100 000 à peu près. Puis t'en as qui vaut 3, 4, 5 millions. Là.
Ouais.
Mais c'est vraiment des montres niches. Là.
Okay.
Je pense que le monde, il porte ça plus pour avoir l'air cool
social.
Parce qu'ils sont vraiment, ils ont vraiment une forme distincte. Mm-hmm. Je pense que le monde, il porte ça plus pour le prestige.
Pour distinguer
que,
un peu
ouais,
des autres.
Parce que moi, je porterais pas ça. D'un, ça coûte vraiment cher, là. Après ça, j'ai parlé des montres plus entrée de gamme. Là. T'as Seiko qui est extrêmement populaire, qui est une compagnie de montres que si t'avais à investir dans une montre et tu veux pas payer trop cher, moi j'irais dans Seiko parce que c'est des montres durables qui coûtent à peu près 300$, qui vont durer des années et des années. Après ça, moi j'irais dans du moins cher, j'irais comme dans du Hamilton, du Tissot, du Longines un peu plus cher. Mais comme, si tu veux plus aller dans du Suisse, ça serait dans ceux-là. Ceux de ça, si tu veux vraiment comme investir comme un 5 000$, là, si t'es risqué comme ça, j'irais dans du Omega, du Tudor. Ça serait là-dedans. Ça serait comme ça tes grands joueurs, là, à peu près. J'ai parlé tantôt de Heilong & Sohn, qui est la compagnie allemande, genre, très chère, là, mais les autres, leurs montres sont vraiment belles. Là. Mais à peu près, c'est ça, les gros joueurs des montres, là.
Puis un peu dans le même sens, c'est quoi les différents styles de montres qui existent? Peut-être pour justement nous aider à nous repérer.
J'en parle depuis tantôt, mais t'as à peu près 4 ou 5 styles. Tu vas avoir les montres normales qui n'ont pas nécessairement une fonction. Parce que souvent, les montres, avant, c'est des outils. Fait que t'as certaines montres qui ont des fonctions. Tu vas avoir des divers watch, que c'est des montres pour la plongée. Eux autres, ils vont avoir... ça s'appelle un bezel. Un bezel, c'est l'affaire sur la montre qui tourne.
Okay.
Comme des fois, ils vont avoir comme une genre de cercle qui ça tourne. Ça aide pour le temps. Fait qu'imagine les divers watch vont souvent avoir ça. C'est pour aider avec le temps. Fait que genre, tu dis, bon, mais j'ai 20 minutes pour avec ma tank pour l'oxygène, mais je vais mettre 20 minutes sur mon petite affaire. Puis ça va m'aider à y aller. Puis je vais savoir le temps quand que ça va dépasser ce temps-là. Ça veut dire qu'il faut que je remonte en haut. Après ça, tu vas avoir des GMT. Ça, c'est comme, tu es capable d'avoir deux temps en même temps. Okay. Genre. Fait que tu es capable d'avoir comme, imagine le temps ici. Imagine
l'heure de l'Est, puis l'heure de...
Ouais, c'est ça. Imagine que tu es quelqu'un qui voyage beaucoup, mais comme tu peux avoir le temps local. Puis imagine tu veux savoir le temps de ta famille. Ta famille est à Montréal, mais toi, tu es à Londres parce que tu as un meeting. Mais tu peux avoir le temps pour ta famille à Montréal pour savoir quand les appeler, puis ça fait comme ça. Puis tu as le temps à Londres. Après ça, tu as des chronographes que eux autres, c'est ceux-là avec trois boutons. Ça fait pour mesurer le temps, en fait. Ça, c'était fait pour les courseurs de voitures.
Oui.
Des fois, si vous avez des vieux films de courseurs, souvent, ils vont avoir des montres comme ça. Ça, c'est pour aider avec... Ça, c'était dans le temps, ils mesuraient le temps des laps avec ça. Ensuite de ça, tu vas avoir des dress watch, que c'est des montres, comme j'ai dit tantôt, de haut, quand tu t'habilles bien, là, tu vas mettre une petite montre plus chic, plus slim, une montre de soirée. Si je me trompe pas, c'est à peu près ça, les montres. Tu vas voir comme des montres plus des field watch qu'on appelle. C'est des montres un peu plus rugueux que les numéros sont plus gros pour que ce soit plus visible. C'est des montres ouais. style militaire, je dirais.
Ok, oui.
Fait que c'est genre, ils ont plus une affaire plus militaire. Là. Fait que quand des montres de pilotes, tu vas voir ça. Là, souvent, ils ont des gros numéros pour que ce soit très, très visible. Mm-hmm. Comparé à des montres des dress watch que souvent, ils vont même pas avoir de numéros. Là. Ça va juste être des petites lignes.
Puis est-ce que, mettons, les montres plus pour le travail, tu sais, comme pour les militaires, est-ce que c'est des compagnies en particulier qui font ces montres-là? Ouais. Ou ça se peut qu'une compagnie fasse des montres comme plus dressy puis des montres plus... rudimentaire, je sais pas.
Ouais, mais il y a des compagnies qui font un peu de tout.
Mm-hmm.
Tu sais, comme Rolex, ils font un peu de tout. Mais comme t'as des compagnies qui sont comme reconnues pour mm-hmm. leur monde, genre de pilotage, comme Longines sont reconnues. Mais tu sais, les pilotes, ils portent plus ça, mais comme dans le temps. Puis même, genre, leur logo, ils ont un genre de petit avion. Hamilton sont connus pour faire des montres plus militaires parce mm-hmm. que c'était eux qui donnaient. C'était les montres. Durant la Deuxième Guerre mondiale, les Américains portaient des Hamilton. Rolex aussi sont reconnus pour travailler beaucoup avec les services militaires anglais
mm-hmm.
en Angleterre. Fait que tu sais, t'as des certaines montres que tu sais qui vont faire, qui font certains styles, mais souvent les montres haut de gamme vont, genre les compagnies vont faire toutes, là. Genre ils vont faire toutes. Puis après ça, j'ai oublié de parler, ils ont des ça coûte cher, mais c'est des world timer. C'est que tu peux genre changer l'affaire, puis tu auras le temps partout dans le monde, genre.
Wow.
Mais ça coûte vraiment cher.
Ouais, j'imagine.
Ouais, fait que t'as ta complication là aussi qui existe. Mais non, ça, pour revenir sur les compagnies spécifiques, dans le bas de gamme, t'en as mm-hmm. des compagnies qui sont reconnues pour faire une certaine affaire, mais souvent quand tu rentres dans le haut de gamme, les compagnies font pas mal toutes.
OK.
Puis sinon, peut-être pour conclure là, l'épisode, dans une optique plus rétrospective, est-ce que tu pourrais nous faire peut-être un historique de l'importance des montres?
Ouais. Moi, je ferais plus, genre, pourquoi une montre, c'est important plus pour moi, là.
Ah, ben, pas pour
réussir, à convaincre les Béatrices d'acheter des montres. Parce que moi, je pense, ben, même à travers l'histoire, là, une montre, c'est pas juste un accessoire, mais pour moi, ça dit une histoire, tu sais.
Oui.
Comme, moi, la montre que je porte en ce moment, c'est mon père qui me l'a donnée pour ma fête cette année. Puis c'est la montre que j'ai portée comme toutes mes années ici au Biaprix.
Ouais.
Fait que, tu sais, dans 10 ans, quand je vais la remettre, parce qu'elle va encore marcher dans 10 ans, parce que ça dure longtemps, les montres, mais je vais aller genre, damn, c'est avec cette montre-là que j'ai gradué le Biaprix.
Mmh.
Ou peut-être je vais acheter une montre quand que je vais graduer le Biaprix, puis cette montre-là va représenter moi qui ai gradué le Biaprix, tu sais. Fait que tu peux toujours attacher une histoire à la montre, puis un memory à la montre.
Ouais.
Fait que je trouve que c'est super important. Puis les montres, vu qu'ils durent vraiment longtemps, tu peux les léguer aux enfants, tu sais. Comme mon père, il a... quelques montres que genre ça vaut cher pour lui, tu sais, peut-être lui quand il va passer, il va me passer à moi, puis moi je regarde passer à mon fils. Tu sais, il va avoir une histoire à travers ça. Fait que c'est pour ça que c'est difficile pour plusieurs de vendre leurs montres parce que ils ont tout le temps un rattachement à eux. Puis pour moi aussi c'est ça. Fait que si vous achetez une montre, achetez pas juste une montre parce que vous voulez en avoir répondre, une. Ouais. Achetez une pour une occasion spéciale. Donc, tu sais, c'est quand vous allez graduer, quand vous allez recevoir votre premier bonus à votre job, tu sais. Des affaires qui vont vous faire rappeler de, comme, genre, vous êtes rendu où dans la vie, pourquoi vous avez reçu cette montre-là.
Mm-hmm.
Puis je pense que c'est vraiment plus pour ça que vous devrez acheter une montre. C'est plus pour le côté personnel de ça, tu sais, l'attachement qu'on a à la montre, tu sais.
Ouais, parce que, tu sais, c'est vraiment comme un véhicule, exactement, d'attachement émotionnel. Si on le voit, je veux dire. Comme pour ma part, exemple, mes grands-parents m'ont donné beaucoup de bijoux, tu sais, justement, dont j'ai hérité notamment, mais tu sais, des montres comme une petite montre assez simple que ma grand-mère a portée toute sa vie, mais tu veux pas, comme le fait de la porter sur soi à tous les jours, je pense que ça fait peut-être la différence. Puis c'est ce que tu nous expliques en ce moment, c'est super intéressant, je trouve.
Vraiment. Ouais, c'est ça, c'est vraiment une question de je trouve, de rattachement, là, tu sais, comme pour moi, c'est la montre-là que je porte aujourd'hui, tu sais, le but, c'est que je vais être capable de le donner à un de mes enfants quand je vais être plus vieux, puis c'est, tu sais, comme mon enfant va être capable de la porter puis dire, damn, c'est genre, c'est ta montre-là que mon père a porté dans certaines situations, des affaires comme ça, tu sais, il y a tout le temps un rattachement à ça, puis il y a beaucoup de grands acheteurs qui c'est ça qu'ils font, mais comme à la naissance de leur fils ou à leur fille, ils vont acheter une montre, puis quand ils vont avoir 18 ans, ils vont de léguer cette montre-là, mais ça, c'est ta montre d'anniversaire qui appelle. Cool. Fait que je trouve que genre les montres ont une façon de compter des histoires puis d'avoir vraiment beaucoup de personnalité à ça.
Mm-hmm.
Fait que c'est même quand t'achètes des montres sur le marché secondaire, tu peux faire ça. Tu peux faire, ah ben tu sais, si ta personne-là me vend ta montre, genre, la montre, elle a une histoire en arrière, puis tout. Fait que moi, je pense que c'est vraiment plus cet aspect-là que je dirais pourquoi on devrait acheter des montres.
Là. Non, c'est vraiment une belle façon de le voir.
Ouais. Mm-hmm. Fait que les biatrices, quand on gradue,
on achète une montre.
On achète toute une montre.
On va aller magasiner,
on va examiner en place Sainte-Foy pour choisir nos montres.
Viendrez-vous me texterez si jamais vous voulez une montre. Je vais vous aider à trouver une montre qui est bonne pour vous. Mais pour le vrai, je trouve que c'est super important là, d'avoir comme pas nécessairement une montre, mais n'importe quoi que tu es capable de rattacher
des
valeurs sentimentales puis des memories à ça.
Mm-hmm.
Que ce soit une montre, que ce soit un bracelet, que ce soit n'importe quel bijou, n'importe quoi en fait. Là. Ça faut que ce soit important d'avoir quelque chose que... Tu sais, pas juste acheter quelque chose à cause de la valeur monétaire ou à cause que tu vas avoir l'air cool ou quelque chose comme ça, mais acheter quelque chose parce que c'est important pour toi, tu sais.
Mm-hmm.
Puis parce que c'est pour ça que moi j'ai beaucoup d'attachement à ma montre à cause de ça. Puis je trouve que j'ai hâte à investir dans le futur.
Mm-hmm.
Comme mon père a toujours dit, genre, le nombre de montres que tu as besoin dans la vie, c'est... il disait tout le temps que c'était N plus 1. Puis N, c'était le nombre de montres que tu as déjà. Fait que tout le temps que t'en as une nouvelle, tout le temps que t'en as une plus. Puis c'est vrai, là, tu sais, comme... Moi, je regarde juste ça tout le temps. Là, je regarde les montres, les prix, mais j'ai pas l'argent pour ça en ce moment, malheureusement.
Ben merci beaucoup, Alexis, pour cette conversation. C'était vraiment éclairant sur l'univers des montres, puis aussi sur le côté un peu plus personnel puis sentimental. Donc, tu nous as vraiment permis de démystifier les enjeux qui entourent le marché gris puis le phénomène de rareté. Donc, c'était A Priori sur les ondes de chez 94.3. À très bientôt!